La radiodiffusion française vous invite à écouter.
L'esprit de la Ve République.
Donner de l'amour, c'est vouloir donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Jacques Lacan.
Le docteur Lacan était gaulliste. Il aurait pu constater que la rencontre entre un homme et un peuple, telle qu'elle caractérisait la Ve République, mobilisait beaucoup d'affect. Donner de l'amour, répétait-il, c'est vouloir donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Eh bien, aujourd'hui, une profonde fatigue démocratique gagne le couple peuple-président. Quand, il y a seulement 20 ans, ils se querellaient, c'était le signe d'une réelle satisfaction mutuelle. Maintenant, c'est l'insatisfaction générale, puisque près du tiers du corps électoral ne tente plus le moindre mouvement au lit conjugal. Traf, plus rien à foutre. L'expérience d'une longue vie commune sous la Ve demeure tout de même. Au départ, sa constitution paraissait bancale à la plupart des juristes, mais en politique comme en amour, la doctrine est une chose, ce qu'en font ceux qui conquièrent et exercent le pouvoir en est une autre. Les institutions de la Ve République ont ainsi tenu bon lorsque François Mitterrand s'est glissé dans la chambre du général. Le dénonciateur du coup d'État permanent s'en est même trouvé fort aise. La politique, comme l'amour, aboutit souvent à des résultats inverses de ceux qu'on disait chercher. Mais aujourd'hui, les deux grands partis qui croyaient pouvoir occuper encore le centre de la maison sont menacés d'expulsion. Les murs tiendront-ils ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Qui publie L'esprit de la Ve République aux éditions Perrin. Ce jour, alors on compte sur vous pour introduire un peu de rationalité politique et de distance, voire d'ironie, dans l'observation du divorce que nous signalions. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas. Les juristes interviennent souvent en politique. Mais vous n'êtes pas un juriste. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la doctrine, mais aussi la manière dont l'opinion publique et les partis politiques exercent, conquièrent le pouvoir.
Oui, moi mon travail, c'est un travail de science politique dans un sens assez classique. Aujourd'hui, la tendance, c'est que les juristes ne s'occupent principalement du contentieux constitutionnel. Les spécialistes de sciences politiques ont tendance à se concentrer sur la sociologie, des mobilisations et des choses comme ça. Moi, je reste fidèle à l'idée que il y a une place particulière pour une réflexion sur, disons, la logique des institutions en rapport avec les acteurs politiques, les partis, avec les processus électoraux, qui sont pas réductibles ni aux normes de droit, ni à la dynamique des forces sociales.
Alors, on va fonctionner avec des dates clés, des événements, et puis on entendra des hommes. Première date clé, évidemment, 1958. Certains nous parlent aujourd'hui de quasi-guerre civile. C'était peut-être un risque de guerre civile qui se manifestait en mai 1958. L'Algérie, la Corse, étaient passées aux mains d'un pouvoir insurrectionnel. Et voilà que se produit la rencontre entre une crise attendue depuis longtemps et un homme inattendu, d'une certaine manière, mais disponible depuis longtemps.
Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile pourquoi ? Parce que, naguère, certaines choses se sont passées, ont été accomplies, que les Français le savent. Utile aussi parce que c'est un fait dont nous devons tous prendre acte, tous qui que nous soyons. C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Utile enfin, parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti et aucune organisation, que je suis un homme qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde.
Il n'appartient pas à la tradition républicaine parlementariste, il n'appartient pas à la tradition autoritaire non plus. Et c'est sur une dynamique démocratique qui va tenter de renforcer les pouvoirs de l'État.
Oui, c'est, vous avez dit, c'est la rencontre entre une crise et un projet qui mûrit depuis longtemps, qu'il avait développé au début de la Quatrième République dans un discours célèbre de Bayeux, où il dessinait déjà les grands traits d'un nouveau régime, qui n'est pas un régime dictatorial, ça n'a jamais été, je crois, son intention, qui accepte le cadre républicain et un certain héritage de la Révolution française, mais qui s'inscrit profondément en rupture avec ce qu'on appelait la tradition républicaine sous la Troisième République, qui s'est survécu sous la Quatrième, c'est-à-dire un régime de prédominance parlementaire absolue, dans lequel le Parlement était réellement souverain, et où, du coup, la position du pouvoir exécutif pouvait paraître un peu fragile ou précaire.
On parlait de limitation de la limitation parlementaire. Il y a un parlementarisme, mais raisonné. Il y a un Premier ministre, mais subordonné. Il y a un scrutin majoritaire à deux tours. Mais vous disiez, il faut considérer les forces sociales. C'est un régime qui va fonctionner parce que ça laisse de la marge de manœuvre à des acteurs, ceux qui s'intéressent à la modernisation de la France.
Je crois que ça fait plus que laisser des marges de manœuvre. Ce qui est tout à fait étonnant dans les débuts de la Ve République, c'est que ce régime qui est né d'une crise liée aux conditions de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, et qui va d'ailleurs entraîner le pays dans une voie assez différente de celle que beaucoup attendaient. Ce régime ne se contente pas de gérer la crise coloniale, de changer les institutions politiques. Il réussit à fédérer toutes sortes de projets réformateurs qui, comme on dit, étaient dans les cartons sous la Quatrième République. Beaucoup de réformes étaient attendues depuis longtemps, par exemple la réforme hospitalière que le père de Michel Debré défendait depuis des années. Beaucoup de réformes de modernisation, ce qui fait que ce régime que certains trouvent autoritaire est en fait une prodigieuse occasion pour des énergies de se libérer. C'est ça, je crois, qui fait l'extraordinaire réussite des premières années.
Alors, on fonctionne par date clé. Ceux qui croyaient que ce serait une dictature à la romaine ou un principat, j'utilise toujours le vocabulaire romain, court, se trompent quand est mise en place l'élection du président de la République. Nous sommes en 1962 avec un référendum au suffrage universel.
Françaises et Français ont eu à trancher au fond de leur conscience le débat ouvert entre les partis et le chef de l'État sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Ce débat s'assortissait à la vérité du souvenir des erreurs passées, de la crainte de lendemains difficiles. Il s'assortissait également d'une passion que, jusqu'ici, aucun autre référendum n'avait suscité. C'est dans cette ambiance un peu lourde que les Français ont voté. En fin de soirée, au ministère de l'Intérieur, M. Roger Frey faisait devant les journalistes l'analyse du scrutin. 62,10% des suffrages pour le oui, 37,90% pour le non. Voici donc le général de Gaulle confirmé au pouvoir à une heure où une crise ne pouvait avoir que de fatales conséquences.
On va croire, quand on entend ces archives de propagande diffusées dans les cinémas, que nous sommes totalement gaullistes, Philippe Reynaud. C'est seulement 1974, date importante, quand un candidat non gaulliste est élu, que les institutions connaissent un premier test décisif.
Oui, je crois quand même que la réforme de 62 a de fait changé beaucoup de choses. Et paradoxalement, c'est le premier affaiblissement majeur que connaît le régime gaulliste tel qu'il existait dans les premières années. Ce que j'appelle le principal, à la suite d'autres auteurs, c'est un régime qui était fondé sur, à condition de ne pas donner de nuances plébiscitaires, c'est un régime plébiscitaire dans lequel il y a une communication directe entre le chef d'État et le peuple, et où le chef de l'État fait appel au peuple pour trancher des questions décisives, pour renouveler la confiance, etc., et qui repose sur une sorte de fiction unanimiste, même si évidemment il y a une opposition légale, etc. En ouvrant la présidence de la République à une élection au suffrage universel, on fait finalement que le président de la République sera, même s'il est bien élu, ce qui est le cas de Gaulle en 65, sera l'élu d'une partie de la population qui ne dépassera guère la moitié. Il devient, quoi qu'on en ait, le chef sinon un chef de parti, du moins le chef d'une partie de la France qui a vaincu l'autre dans une compétition équitable. Alors évidemment, tant que la succession se fait dans le cadre gaulliste, ce qui est le cas avec Pompidou, même si les rapports de Pompidou et de Gaulle n'étaient pas parfaits, on peut estimer que finalement, on reste dans le mouvement qui a été impulsé en 58. Le véritable test, c'est le passage à un président qui ne serait pas issu de la famille gaulliste et qui d'ailleurs, même s'il a le soutien nécessaire d'une partie de l'appareil gaulliste avec Jacques Chirac, qui d'ailleurs va assez vite s'éloigner de ce qui était l'orthodoxie gaulliste sur beaucoup de points.
Une date importante sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, c'est en 1974, le vote par le Congrès à Versailles d'une révision fondamentale. Députés et sénateurs de la minorité, s'ils sont en nombre suffisant, pourront saisir le Conseil constitutionnel si une loi leur paraît enfreint dans la Constitution. C'est expliqué beaucoup plus clairement que par moi, par le président Valéry Giscard d'Estaing, avec son ton de polytechnicien.
D'abord, le sujet, c'est-à-dire une réforme de la Constitution. Quel en est l'objet? C'est de permettre à un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est bien conforme à la Constitution. Vous me direz que le cas doit être exceptionnel et que le Parlement, dans l'ensemble, vote des lois conformes à la Constitution, c'est vrai, mais néanmoins le problème se pose parfois. Et il y a des interprétations qui doivent être tranchées par le Conseil constitutionnel.
C'est le début de l'envol du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on va parler deux fois par semaine du Conseil constitutionnel parce qu'il publiera les parrainages. Ils seront là sur son site. On va parler mi-mars d'une décision que pourrait prendre le Conseil constitutionnel si jamais il manquait un candidat au centre ou à droite. Le début de l'envol du Conseil.
Oui, le Conseil constitutionnel avait été créé avec pour principale mission de respecter ce qui est une des innovations majeures de 58, c'est-à-dire la limitation du domaine de la loi. Le fait que le Parlement ne définit pas lui-même les limites de de son pouvoir, les limites de la législation, il est cantonné dans un domaine relativement restreint et l'exécutif s'en trouve renforcé, si bien que pendant longtemps on disait, ce qui n'est moyennement aimable, que le Conseil constitutionnel était simplement le chien de garde de l'exécutif. Et je pense que, comme toutes les juridictions, le Conseil constitutionnel a eu très vite l'idée d'élargir son champ d'activité et a commencé à le faire d'ailleurs avant 1974, mais de fait on a affaire à quelque chose de très important, c'est-à-dire le fait que le Conseil constitutionnel n'est plus là simplement pour arbitrer les dissensions éventuelles entre l'exécutif et le législatif, mais est juge d'une certaine manière des conflits politiques entre la majorité et l'opposition, puisque par la force des choses, ce sera plutôt les parlementaires de l'opposition qui vont saisir le Conseil constitutionnel, beaucoup plus souvent d'ailleurs que ne le prévoyait le président Giscard d'Estaing.
1981, le test des tests, le président Mitterrand, l'auteur autrefois du coup d'État permanent, s'installe à l'Élysée. Alors le socialisme mitterrandien est venu au pouvoir pour rompre avec le capitalisme, avec la culture révolutionnaire en bandoulière. Quelques années plus tard, nous sommes ici au moment de la réélection, en 88, il porte chapeau noir, écharpe rouge, et les artistes, on va entendre Patrick Sébastien dans un instant, le représente dansant sur la scène, devant un public enthousiaste dans cette tenue.
Allez Dédé, on y va. On y va.
T'as qu'à y aller, toi.
On y va.
Écoutez, toi, ta gueule.
Attention. Il est là, Dieu.
Salut les gars.
Salut Dieu.
Ah, mortel de moi-même. Qu'est-ce que je suis grand.
Je vous l'avais dit, il est dopé.
Oh putain.
Crac crac gars.
Appelez-moi Dieu.
Je le vais. Crac crac gars.
Appelez-moi Dieu.
Je le vais. Crac crac gars.
Appelez-moi Dieu.
Je le vais. Je le vais.
Moi j'ai mon mi, moi j'ai mon beau. Défenseur de la terre, avec mon chapeau à laser, mon écharpe qui lance des éclairs. Mitterrand, Mitterrand, maître de l'univers.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Après Patrick Sébastien, Philippe Reynaud, l'auteur de La République, de l'esprit de la Ve République, aux éditions Perrin. Maître de l'univers, oui, c'est très important, dites-vous, les années 80, parce qu'il y a un réalignement. Le président est au centre de l'univers. Et d'ailleurs, il y a une sorte de réalignement au centre et des socialistes et des anciens gaullistes.
Oui, ce qui est remarquable dans la période Mitterrand, c'est que, comme vous l'avez rappelé, Mitterrand était arrivé au pouvoir, en principe, avec un programme de rupture avec le capitalisme, qui était fondé sur le programme commun signé avec les communistes une dizaine d'années auparavant. Et que, en l'espace de deux ans, une fois que les aspects, je dirais, quantitatifs de ce programme ont été appliqués, l'augmentation des minima sociaux, la retraite à 60 ans, les 39 heures, etc., on voit très bien que la rupture avec le capitalisme passe complètement sous la table. Et même qu'on sort de la première politique par ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, qui se fait en 83 et qui est légitimé, sanctionné par le changement de Premier ministre en 84 avec l'arrivée de Laurent Fabius. Et c'est le début d'un complet changement du système partisan français. Jusque-là, la Ve République avait fonctionné dans ce que Maurice Duverger appelait le quadrique bipolaire, avec d'un côté l'UDR ou le RPR et l'UDF d'un côté, le Parti Socialiste et le Parti Communiste de l'autre. Et c'est un système qui était très intégré, dans lequel la plupart des Français se reconnaissaient, mais qui reposait du côté de l'électorat de gauche sur l'attente du grand changement qui devait venir un jour. Il est clair que ce grand changement n'a pas vraiment eu lieu. Et ce qui naît à ce moment-là, c'est un système plus souple, plus confus peut-être, dans lequel il y a deux grands partis dominants qui se sont rapprochés dans leurs objectifs de politique intérieure et aussi de politique étrangère, avec une ligne plus européenne que par le passé.
L'état de droit, les transformations des mœurs, l'individualisation, les droits de l'homme, l'Europe, ce que Furet, Rosan Vallon, Julliard ont appelé la République du Centre dans un livre important de 88.
Et qui est un très très bon livre qui mérite tout à fait d'être lu et qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit parfois, ne dit pas du tout que le centre est la solution. C'est pas un plaidoyer pour le gouvernement du centre. C'est une analyse du fait que la politique française n'est plus structurée de la même manière qu'auparavant et qu'elle doit trouver de nouveaux thèmes, d'ailleurs de nouveaux clivages. Et Furet, d'ailleurs, termine son texte en disant que en 88, les Français viennent d'élire un maître de l'illusion ou quelque chose comme ça, dont on ne sait pas encore ce qu'il va faire.
D'où le succès de la stratégie de 95 de Jacques Chirac, qui dit « Le centre, c'est le vide, il faut de nouveaux clivages. D'ailleurs, il y a une fracture sociale en France », son thème central de la campagne de 95. Ça va être un morceau de bravoure de votre livre « L'esprit de la Ve République », que le passage consacré au mandat de Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac avait fourni aussi beaucoup de morceaux de bravoure au guignol.
Alors, je poutre sur on. L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour.
Je parle là-dedans, Jacques.
Ah oui, on peut aussi enregistrer des voix avec. Hein. J'ai scanné la voix de maman. Bon, alors j'ouvre un nouveau programme. Hop.
Il y a dans ce pays une fracture.
Oh putain, qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est mon ancien programme. Bon, alors on repart dans le... Quoi? Ah, je l'avais mis à la poubelle, la fracture sociale. Pourquoi elle est encore là?
Il y a dans ce pays une fracture.
Je poutre sur...
Il y a dans ce pays...
Oh, mais putain, fracture. C'est votre terre, hein? C'est fini, ce programme-là, on te dit.
L'érosion de l'esprit de la Ve République, c'est là que ça commence pour vous.
C'est là que ça s'accélère, en tout cas. Mais ça s'accélère à l'issue d'une tentative qui, au départ, ne manquait pas d'allure pour refonder la Ve République sur une base comparable à celle de 58. Je crois que l'hypothèse de Jacques Chirac, c'était que la fracture sociale était quelque chose de comparable à la guerre d'Algérie, ce qui était peut-être un peu exagéré. Et que dans ce cadre-là, il pourrait jouer le même rôle que le général de Gaulle, en considérant peut-être que son ancien appel de Cochin était l'équivalent de l'appel du 18 juin, ce qui est pas certain.
Alors là commence l'ironie. Après avoir dit que la stratégie était valable, vous expliquez que Jacques Chirac, c'est le génie du fossoyeur.
Je crains que ce soit quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est présenté pendant l'essentiel de sa carrière comme celui qui allait restaurer l'intégralité de la vraie politique gaulliste. Il a commencé sous Giscard d'Estaing, en commençant par faire élire Giscard d'Estaing contre le candidat gaulliste naturel qui était Chaban Delmas, et après avoir été un premier ministre très actif et d'ailleurs très très bon de Giscard, il a choisi de s'engager dans une voie de guérilla parlementaire qui, pour ceux qui ont des souvenirs du 19e siècle, évoque un peu l'attitude des ultras contre Louis XVIII. Il était plus royaliste que le roi, et en guise de défense de la Ve République, il a commencé à affaiblir un petit peu le président. Il a continué d'une certaine manière sous la cohabitation, et en 95, là, c'est un petit peu différent, parce qu'il commence en annonçant le retour, finalement, à la manière de gouverner des premières années. Il s'était d'ailleurs donné les moyens institutionnels de le faire, puisqu'il avait fait voter une réforme de la Constitution importante qui élargissait le champ du référendum à des questions sociales qu'il aurait pu utiliser, par exemple, au moment de la crise de décembre 95, de la crise sociale des grandes grèves. Il a décidé de ne pas le faire, je pense, parce qu'il estimait qu'il perdrait ce référendum. Et à partir de ce moment-là, il s'oriente peu à peu vers un ralliement à ce qu'il était supposé avoir critiqué et dénoncé, c'est-à-dire une politique qui est assez semblable aux précédentes, mais qui souffre peut-être du fait qu'on avait promis un autre chose, d'ailleurs mystérieux.
Peut-être. Un mot rapide de la dernière date clé, 2000, d'ailleurs c'est sous Chirac. Valéry Giscard d'Estaing est un de ceux, il est infatigable, qui ont imposé le quinquennat. C'est le dernier moment clé que nous voulions signaler.
J'en suis heureux parce que c'est une réforme de modernité. Et après tout, c'est presque tout ce qu'il y a à dire sur elle. Le mandat de 7 ans, c'était un tunnel, et 2 fois 7 ans, un tunnel dont on ne voyait pas la fin. 5 ans, c'est un délai moderne, appliqué par la plupart des pays européens ou des pays modernes dans le monde. La France rejoint la modernité.
Voilà, ça suffit de dire que c'est moderne. Une grande analyse et des primaires et du quinquennat et de l'inversion fondamentale du calendrier parlementaire. Les élections législatives dorénavant sont après la présidentielle. C'est la fin du parlementarisme, dit François Hollande. Aujourd'hui, exit la République du Centre, exit le grand réalignement des années 1980 dont vous nous parliez tout à l'heure, Philippe Reynaud.
Ce qui est curieux, c'est que exit plutôt les deux partis hégémoniques qui étaient sortis de ce grand réalignement.
J'ai jamais su si on dit exeunt dans ce cas-là.
Exeunt, vous avez raison. Exeunt,
les deux partis. Très bon pour le latin.
Exeunt, les deux partis qui étaient jusque-là, qui incarnaient les deux pôles de l'alternance sur une avec une amplitude programmatique assez réduite. Ce qui est justement remarquable dans l'élection présente, c'est que on n'est pas certain que aucun de ces deux partis soit au deuxième tour. Et qu'on a d'un côté un parti qui incarne ce qui, depuis les années 80, ne se satisfont pas, finalement, du nouveau consensus qui était apparu alors, et un leader qui est ouvertement sur une ligne ni droite ni gauche, qui est centriste dans beaucoup de ses thèmes, mais qui, paradoxalement, reprend à son compte toute une rhétorique gaulliste de la rencontre d'un homme et d'un peuple, avec la France, Jeanne d'Arc, etc., avec d'ailleurs un attachement étonnant au souvenir de la monarchie, qui est, faut jamais oublier, dans le cas de Macron. Donc on est dans une autre forme de République du Centre, peut-être.
Et peut-être faudrait-il réviser un des murs, le système majoritaire à 2 tours, parce que quand le Front National est à ce niveau, que les deux anciens partis dominants sont au niveau où ils sont descendus, ça n'est plus tenable. On n'a pas parlé de la question judiciaire. Dans la Constitution, on parle d'autorité judiciaire. Et maintenant, on crie au pouvoir excessif des juges.
Oui, je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée de cette opposition auxquelles beaucoup de Français sont attachés entre l'autorité et le pouvoir judiciaire. Après tout, à Rome, puisqu'on parlait de Rome à l'instant, on disait « autoritas in senatu ». Potestas in populo, l'autorité est dans le Sénat, le pouvoir est dans le peuple. Personne ne doute que le Sénat n'avait pas mal de pouvoir, en fait. L'autorité peut, est supposée augmenter le pouvoir, elle peut en avoir un.
Elle peut être plus puissante,
mais ce qui se passe actuellement, c'est, je crois, surtout un changement des relations entre les élus et la justice qui s'était fixée depuis la Révolution et qui est en grand changement.
L'esprit de la Ve République, c'est votre nouveau livre aux éditions Perrin et sur la question judiciaire, une interview de vous dans La Croix de ce matin. L'émission était préparée par Éline Canegulesco, Franck Olivard, Martin Penet à la réalisation. Lise comme la technique Gaël Braouezek, et pour la succession, la vie en milieu extrême. C'est comme ça qu'on pourrait définir la politique maintenant, Mathieu.
Oui, ben nous, ce sera de la géologie, Jean. Géologie éthiopienne, nous irons sur le site de Dalol.
Creusons, creusons.